Chapitre 2. En notre qualité de poète, nous avons le droit de relever le flammeum couleur de safran qui enveloppait la jeune épouse. Plus heureux en cela que les Sardiens qui, après toute une journée d'attente, furent obligés de s'en retourner chez eux, réduits, comme avant, aux simples conjectures. Nicia était réellement au-dessus de sa réputation, quelque grande qu'elle fût. Il semblait que la nature se fût proposée, en la créant, d'aller jusqu'aux limites de sa puissance et de se faire absoudre de tous ses tâtonnements et de tous ses essais manqués. On eût dit qu'émue d'un sentiment de la jalousie à l'endroit des merveilles futures des sculpteurs grecs, elle avait voulu elle aussi modeler une statue et faire voir qu'elle était encore la souveraine maîtresse en fait de plastique. Le grain de la neige, l'éclat micacé du marbre de Paros, la pulpe brillantée des fleurs de la balsamine donnaient une faible idée de la substance idéale dont était formée Nicia. Cette chair si fine, si délicate, se laissait pénétrer par le jour et se modelait en contours transparents, en lignes suaves, harmonieuses comme de la musique. Selon la différence des aspects, elle se colorait de soleil ou de pourpre, comme le corps aromal d'une divinité, et semblait rayonner de lumière et la vie. Le monde de perfection que renfermait l'ovale noblement allongé de sa chaste figure, nul ne pourra le redire, ni le statuaire avec son ciseau, ni le peintre avec son pinceau, ni le poète avec son style, fût-il Praxitèle, Apelle ou Mimnerme. Sur son front uni, baigné par des ondes de cheveux rutilants, semblables à l'électrum en fusion et saupoudré de limaille d'or, suivant la coutume babylonienne, siégeait, comme sur un trône de jaspe, l'inaltérable sérénité de la beauté parfaite. Pour ses yeux, s'ils ne justifiaient pas entièrement ce qu'en disait la crédulité populaire, ils étaient au moins d'une étrangeté admirable. Des sourcils bruns dont les extrémités s'effilaient gracieusement comme les pointes de l'arc d'Eros, et que rejoignait une ligne de henné à la mode asiatique, de longues franges de cils aux lombres soyeuses, contrastaient vivement avec les deux étoiles de saphir roulant sur un ciel d'argent bruni qui leur servait de prunelles. Ses prunelles, dont la pupille était plus noire que l'atramant, avaient dans l'iris de singulières variations de nuances. Du saphir, elle passait à la turquoise, de la turquoise à l'algue marine, de l'algue marine à l'ombre jaune, et quelquefois, comme un lac limpide dont le fond serait semé de pierreries, laissait entrevoir, à des profondeurs incalculables, des sables d'or et de diamants sur lesquels des fibrilles vertes frétillaient et se tordait en serpent d'émeraude. Dans ces orbes aux rosées claires phosphoriques, les rayons des soleils éteints, les splendeurs des mondes évanouis, les gloires des Olympes éclipsées, semblaient avoir concentré leurs reflets. En les contemplant, on se souvenait de l'éternité, et on se sentait pris de vertige, comme en se penchant sur le bord de l'infini. L'expression de ces yeux extraordinaires n'étaient pas moins variables que leur teinte. Tantôt, leurs paupières s'entr'ouvrant comme les portes des demeures célestes, ils vous appelaient dans des élysées de lumière, d'azur et de félicité ineffables. Ils vous promettaient la réalisation de tous vos rêves de bonheur, décuplés, centuplés, comme s'ils avaient deviné les secrètes pensées de votre âme. Tantôt, impénétrables comme des boucliers composés de sept lames superposées, des plus durs métaux, il faisait tomber vos regards, flèches émoussées sans force, d'une simple inflexion de sourcils, d'un seul tour de prunelle, plus fort que la foudre de Zeus, il vous précipitait du haut de vos escalades les plus ambitieuses dans des néants si profonds qu'il était impossible de s'en relever. Typhon lui-même, qui se retourne sous l'Etna, n'eût pas pu soulever les montagnes de dédain dont il vous accablait. L'on comprenait que, vécût-on mille olympiades avec la beauté du blond fils de Leto, le génie d'Orpheus, la puissance sans borne des rois assyriens, les trésors des Kabyres, des Tekines et des Dactyles, dieu des richesses souterraines, on ne pourrait le ramener à une expression plus douce. D'autres fois, ils avaient des langueurs si onctueuses et si persuasives, des effluves et des irradiations si pénétrants, que les glaces de Nestor et de Priam se seraient fondues à leur aspect, comme la cire des ailes d'Icare en approchant des zones enflammées. Pour un de ses regards, on eût trempé ses mains dans le sang de son hôte, dispersé aux quatre vents les cendres de son père, renversé les saintes images des dieux et volé le feu du ciel comme Prométhée, le sublime larron. Cependant, leur expression la plus ordinaire, il faut le dire, était une chasteté désespérante, une froideur sublime, une ignorance de toute possibilité de passion humaine, à faire paraître des yeux de clair de lune de Phoebé et les yeux verts de mère d'Athénée plus lubriques et plus provoquants que ceux d'une jeune fille de Babylone sacrifiant à Délès Milita dans l'enceinte de cordes de Scottish Beowulf. Leur virginité invincible paraissait défier l'amour. Les jours de Nicia, que nul regard humain n'avait profanés, excepté celui de Gigès, le jour du voile enlevé, avait une fleur de jeunesse, une pâleur tendre, une délicatesse de grain et de duvet, dont le visage de nos femmes, toujours exposé à l'air et au soleil, ne peut donner l'idée la plus lointaine. La pudeur y faisait courir des nuages roses, comme ceux que produirait une goutte d'essence vermeille dans une coupe pleine de lait, et quand nulle émotion ne les colorait, elles prenaient des reflets argentés, de tièdes lueurs comme un albâtre éclairé par dedans. La lampe était son âme charmante que laissait apercevoir la transparence de sa chair. Une abeille se fut trompée à sa bouche, dont la forme était si parfaite, les coins si purement arqués, la pourpre si vivace et si riche, que les dieux seraient descendus des maisons olympiennes pour l'effleurer de leurs lèvres humides d'immortalité, si la jalousie des déesses n'y eut mis bon ordre. Heureux l'air qui passait par cette pourpre et ses perles, qui dilatait ses jolies narines, si finement coupées et nuancées de ton rosé, comme la nacre des coquillages poussée par la mer sur les rives de Chypre au pied de la Vénus Anadyomène. Mais il y a comme cela une foule de bonheur accordée à des choses qui ne peuvent les comprendre. Quel amant ne voudrait être la tunique de sa bien-aimée ou l'eau de son bain? Telle était Nicia, si l'on peut se servir de ces mots, après une description si vague de sa figure. Si nos brumeux idiomes du Nord avaient cette chaude liberté, cet enthousiasme brûlant du Shirhashrim, peut-être par des comparaisons, en suscitant dans l'esprit du lecteur des souvenirs de fleurs, de parfums, de musique et de soleil, en évoquant par la magie des mots tout ce que la création peut contenir d'images gracieuses et charmantes, nous eussions pu donner quelque idée de la physionomie de Nicia. Mais il n'est permis qu'à Salomon de comparer le nez d'une belle femme à la tour du Liban qui regarde vers Damas. Et pourtant, qu'y a-t-il de plus important au monde que le nez d'une belle femme? Si Hélène, la blanche Tindaride, eût été Camarde, la guerre de Troie eût-elle eu lieu? Et si Semiramis n'avait plus le profil d'une régularité parfaite, eût-elle séduit le vieux monarque de Ninevel et ceint son front de la mitre de perles, signe du pouvoir suprême? Candaule, bien qu'il n'eût fait amener dans ses palais les plus belles esclaves de Sourds, d'Assalon, de Sogde, de Sakès, de Ratsaf, les plus célèbres courtisanes d'Éphèse, de Pergame, de Smyrne et de Chypre, fut complètement fasciné par les charmes de Nicia. Il n'avait pas même soupçonné jusque-là l'existence d'une pareille perfection. Libre, en sa qualité d'époux, de se plonger dans la contemplation de cette beauté, il se sentit pris d'éblouissement et de vertige, comme quelqu'un qui se penche sur l'abîme ou fixe ses yeux sur le soleil. Il éprouva une espèce de délire, de possession, comme un prêtre ivre du Dieu qui le remplit. Toute autre pensée disparut de son âme, et l'univers ne lui apparut plus que comme le brouillard vague où rayonnait le fantôme étincelant de Nyssia. Son bonheur tournait à l'extase et son amour à la folie. Parfois, sa félicité l'effrayait. N'être qu'un misérable roi, que le descendant lointain d'un héros devenu dieu à force de fatigue, qu'un homme vulgaire fait de chair et d'os, et sans avoir rien fait pour le mériter, sans même avoir, comme son aïeul, étouffé quelque hydre et déchiré quelque lion, jouir d'un bonheur don Zeus à la chevelure ambrosienne serait à peine digne. Tout maître de l'Olympe qu'il est, il avait en quelque sorte honte d'accaparer un si riche trésor pour lui seul, de faire au monde le vol de cette merveille et d'être le dragon écaillé et griffu qui gardait le type vivant de l'idéal des amoureux, des sculpteurs et des poètes. Tout ce qu'ils avaient rêvé dans leurs aspirations, leur mélancolie et leur désespoir, ils le possédaient, lui, Cando, le pauvre tyran de Sardes, ayant à peine quelques misérables coffres pleins de perles, quelques citernes remplies de pièces d'or et 30 ou 40 000 esclaves achetés ou enlevés à la guerre. La félicité était trop grande pour Candole, et la force qu'il eut sans doute trouvée pour supporter l'infortune lui manqua pour le bonheur. Sa joie débordait de son âme comme l'eau d'un vase sur le feu, et dans l'exaspération de son enthousiasme pour Nyssia, il en était venu à la désirer moins timide et moins pudique, car il lui en coûtait de garder pour lui seul le secret d'une telle beauté. « Oh !» se disait-il, pendant les rêveries profondes qui occupaient tout le temps qu'il ne passait pas auprès de la reine, « Oh, l'étrange sort que le mien ! Je suis malheureux de ce qui ferait le bonheur de tout autre époux. Nyssa ne veut pas sortir de l'ombre du gynécée et refuse, dans sa pudeur barbare, de relever son voile devant d'autres que moi. Pourtant, avec quel enivrement d'orgueil, mon amour la verrait rayonnante et sublime, debout sur le haut de l'escalier royal, dominer mon peuple à genoux et faire évanouir comme l'aurore qui se lève toutes les pâles étoiles qui, pendant la nuit, s'étaient crues des soleils. Orgueilleuse Lydienne, qui pensait être belle, vous ne devez qu'à la réserve de Nyssia de ne pas paraître, même à vos amants, aussi laide que les esclaves de Naachi et de Couche, aux yeux obliques, aux lèvres épatées. Si une seule fois elle traversait les rues de Sardes, le visage découvert, vous auriez beau tirer vos adorateurs par le pan de leur tunique, aucun d'eux ne retournerait la tête, ou s'il le faisait, il vous demanderait votre nom, tant il vous aurait profondément oublié. Ils iraient se précipiter sous les roues d'argent de son char, pour avoir la volupté d'être écrasés par elle, comme ces dévots de l'Indus qui pavent de leur corps le chemin de leur idole. Et vous, déesse, qu'a jugé Paris Alexandre, si Nyssia avait concouru, aucune de vous n'eût emporté la pomme, pas même Aphrodite, malgré son ceste et la promesse de faire aimer le berger arbitre par la plus belle femme du monde. Pensez qu'une semblable beauté n'est pas immortelle, hélas, et que les ans attelleront ces lignes divines, cet admirable hymne de forme, ce poème dont les strophes sont des contours et que nul au monde n'a lu et ne doit lire que moi, être seul dépositaire d'un si splendide trésor, au moins, mais si je savais, à l'aide des lignes et des couleurs, imitant le jeu de l'ombre et de la lumière, fixer sur le bois un reflet de ce visage céleste, si le marbre n'était pas rebelle à mon ciseau, comme dans la veine la plus pure du Paros ou du Pentélique, je taillerais un simulacre de ce corps charmant qui ferait tomber de leurs autels les vaines effigies des déesses. Et plus tard, lorsque sous le limon des déluges, sous la poussière des villes dissoutes, les hommes des âges futurs rencontreraient quelques morceaux de cette ombre pétrifiée de Nyssia, ils se diraient « Voilà donc comment étaient faites les femmes de ce monde disparu. » Et ils élèveraient un temple pour loger le divin fragment. Mais je n'ai rien qu'une admiration stupide et un amour insensé. Adorateur unique d'une divinité inconnue, je ne possède aucun moyen de répandre son culte sur la terre. » Ainsi, dans Candolle, l'enthousiasme de l'artiste avait éteint la jalousie de l'amant. L'admiration était encore plus forte que l'amour. Si au lieu de Nicia, fille du satrape Mégabase, tout imbu d'idées orientales, il eût épousé quelque grec d'Athènes ou de Corinthe, nul doute qu'il n'eût fait venir à sa cour les plus habiles d'entre les peintres et les sculpteurs et ne leur eût donné la reine pour modèle, comme plus tard le fit Alexandre le Grand pour Campaspe, sa favorite, qui posa nu devant Apelle. Cette fantaisie ne rencontrait aucune résistance dans une femme d'un pays où les plus chastes se glorifiaient d'avoir contribué, celle-là pour le dos, celle-ci pour le sein, à la perfection d'une statue célèbre. Mais c'était à peine si la farouche Nicia consentait à déposer ses voiles dans l'ombre discrète du thalamus, et les empressements du roi la choquaient, à vrai dire, plus qu'ils ne la charmaient. L'idée du devoir et de la soumission qu'une femme doit à son mari la faisait seule céder quelquefois à ce qu'elle appelait les caprices de Candolle. Souvent, il la priait de laisser couler sur ses épaules les flots de ses cheveux, fleuve d'or plus opulent que le pactole, de poser sur son front une couronne de lierre et de tilleul comme une bacchante du Ménal, de se coucher sur une peau de tigre aux dents d'argent, aux yeux de rubis, à peine couverte d'un nuage de tissu plus fin que du ventre amé, ou de se tenir debout dans une conque de nacre, faisant pleuvoir de ses tresses une rosée de perles au lieu de gouttes d'eau de mer. Quand il avait trouvé la place la plus favorable, il s'absorbait dans une muette contemplation. Sa main, traçant en l'air de vagues contours, semblait esquisser quelques projets de tableau. Il serait ainsi resté des heures entières si Nicia, bientôt lasse de son rôle de modèle, ne lui rappelait d'un ton froid et dédaigneux que de pareils amusements étaient indignes de la majesté royale et contraires aux saintes lois du mariage. « C'est ainsi, disait-elle en se retirant, drapée jusqu'aux yeux, dans les plus mystérieuses retraites de son appartement, c'est ainsi que l'on traite une maîtresse et non une femme honnête et de race noble. » Ces sages remontrances ne corrigeaient pas Candolle, dont la passion s'augmentait en raison inverse de la froideur que lui montrait la reine. Il en vint à ce point de ne plus pouvoir garder pour lui les chastes secrets de la couche nuptiale. Il lui fallut un confident, comme un prince de tragédie moderne. Il n'alla pas, comme vous le pensez bien, choisir un philosophe rébarbatif, à la mine renfrognée, et laissant tomber un flot de barbe grise et blanche sur un manteau percé de trous orgueilleux, ni un guerrier, ne parlant que de balistes, de catapultes et de charmes et de faux, ni un eupatride, sentencieux, plein de conseils et de maximes politiques, mais bien Gigès, que sa renommée de galante devait faire passer pour un connaisseur en matière de femmes. Un soir, il lui posa la main sur l'épaule d'un air plus familier et plus cordial que de coutume, et lui jetant un regard, coup d'œil significatif, il fit quelques pas et se sépara du groupe de courtisans en disant à haute voix « Gigès, viens donc me donner ton avis sur mon effigie que les sculpteurs de Sicyone ont achevé tout récemment de tailler dans le bas-relief généalogique où sont inscrits mes aïeux. Ô roi, tes connaissances sont supérieures à celles de ton humble sujet, et je ne sais comment reconnaître l'honneur que tu me fais en me daignant consulter, répondit Gigès avec un signe d'assentiment. Candolle et son favori parcoururent plusieurs salles décorées dans le goût hellénique, où la corne de Corinthe, la volute d'Ionie, fleurissait et se contournait au chapiteau des colonnes, où les frises étaient peuplées de figurines en ouvrage de plastique polychrome, représentant des processions et des sacrifices, et arrivèrent enfin dans une partie reculée de l'ancien palais, dont les murailles étaient formées de pierres à angles irréguliers et jointes sans ciment, à la manière cyclopéenne. Cette vieille architecture avait des proportions colossales et un caractère formidable. le génie démesuré des anciennes civilisations de l'Orient y était lisiblement écrit et rappelait les débauches de granit et de briques de l'Égypte et de la Syrie. Quelque chose de l'esprit des anciens architectes de la tour de Lilac survivait dans ces piliers trapus aux profondes cannelures torses, dont le chapiteau était composé de quatre têtes de taureaux affrontées et reliées par des nœuds de serpents qui semblaient vouloir les dévorer, obscur emblème cosmogonique dont le sens n'était déjà plus intelligible et qui était descendu dans la tombe avec les hiérophantes des siècles précédents. Les portes n'avaient ni la forme carrée ni la forme ronde. Elles décrivaient une espèce d'ogive assez semblable à la mitre des mages et augmentant encore par cette bizarrerie le caractère de la construction. Cette portion du palais formait qu'une espèce de cour entourée d'un portique dont le bas-relief généalogique auquel Candaule avait fait allusion ornait l'architrave. Au milieu, l'on voyait Héraclès, le haut du corps découvert, assis sur un trône, les pieds sur un escabeau, selon le rite pour la représentation des personnes divines. Ses proportions colossales n'eussent d'ailleurs laissé aucun doute sur son apothéose. La rudesse et la grossièreté archaïque du travail, due aux ciseaux de quelque artiste primitif, lui donnaient un air de majesté barbare, une grandeur sauvage, plus analogue peut-être au caractère de ce héros tueur de monstres que ne l'eût été l'ouvrage d'un sculpteur consommé dans son art. À la droite du trône se tenaient Alcée, fils du héros, et Omphale, Ninus, Bélus, Argon, premier roi de la dynastie des Héraclides, puis toute la suite des rois intermédiaires, dont les derniers étaient Ardys, Aliette, Mélès ou Myrsus, père de Candaule, et enfin Candaule lui-même. Tous ces personnages à la chevelure tressée en cordelette, à la barbe tournée en spirale, aux yeux obliques, à l'attitude anguleuse, aux gestes gênés et contraints, semblaient avoir une espèce de vie factice due au rayon du soleil couchant et à la couleur rougeâtre dont le temps revêt les marbres dans les climats chauds. Les inscriptions en caractère antique gravées auprès d'eux, en manière de légende, ajoutait encore à la singularité mystérieuse de cette longue procession de figures aux accoutrements étranges et barbares. Par un hasard que Gigès ne put s'empêcher de remarquer, la statue de Candaule se trouvait précisément occupée la dernière place disponible à la gauche d'Héraclès. Le cycle dynastique était fermé, et pour loger les descendants de Candaule, il eût fallu de toute nécessité élever un nouveau portique et recommencer un nouveau bas-relief. Candaule, dont le bras reposait toujours sur l'épaule de Gigès, fit en silence le tour du portique. Il semblait hésiter à entrer en matière et avoir tout à fait oublié le prétexte sous lequel il avait amené son capitaine des gardes dans cet endroit solitaire. « Que ferais-tu, Gigès ?» dit enfin Candaule, rompant ce silence pénible pour tous les deux. Si tu étais plongeur et que du sein verdâtre de l'océan, tu eusses retiré une perle parfaite d'un éclat et d'une pureté incomparable, d'un prix à épuiser les plus riches trésors. Je l'enfermerais, répondit Gigès, un peu surpris de cette brusque question. Je l'enfermerais dans une boîte de cèdre revêtue de lames de bronze, et je l'enfouirais dans un lieu désert, sous une roche déplacée de temps à autre. Lorsque je serai sûr de n'être vu de personne, bien j'irai contempler mon précieux joyau et admirer les couleurs du ciel se mêlant à ses teintes nacrées. Et moi, reprit Candaule, l'œil illuminé d'enthousiasme, si je possédais ce si riche bijou, je voudrais l'enchâsser dans mon diadème, l'offrir librement à tous les regards, à la pure lumière du soleil, me parer de son éclat et sourire d'orgueil en entendant dire jamais roi d'Assyrie ou de Babylone, jamais tyran grec ou tinérien n'a possédé une perle d'un aussi bel orient que Candaule, fils de Myrsus et descendant d'Héraclès, roi de Sardes et de Lydie. » À côté de Candaule, Midas, qui chalait tout en or dès qu'un mendiant, aussi pauvre qu'Irus. Gigès écoutait avec étonnement les discours de Candolle et cherchait à pénétrer le sens caché de ses divagations lyriques. Le roi semblait être dans un état d'excitation extraordinaire. Ses yeux étincelaient d'enthousiasme, une teinte d'un rose fébrile couvrait ses joues, ses narines enflées aspiraient l'air fortement. « Eh bien, Gigès, continua Candolle, sans paraître remarquer l'air inquiet de son favori, bien, je suis ce plongeur. Dans ce sombre océan humain où s'agitent confusément tant d'êtres manqués et malvenus, tant de formes incomplètes ou dégradées, tant de types d'une laideur bestiale, ébauche malheureuse de la nature qui s'essaye, j'ai trouvé la beauté pure, radieuse, sans tache, sans défaut, l'idéal réel, le rêve accompli, une forme que jamais peintre ni sculpteur n'ont pu traduire sur la toile ou dans le marbre. J'ai trouvé Nyssia. Bien que la reine ait la pudeur craintive des femmes de l'Orient et que nul homme, excepté son époux, n'ait vu les traits de son visage, la renommée aux cent langues et aux cent oreilles a publié partout ses louanges, dit Gigès en s'inclinant avec respect. Oh, de bruit vague, insignifiant, on dit d'elle, comme de toutes les femmes qui ne sont pas précisément laides, qu'elle est plus belle qu'Aphrodite ou qu'Hélène. Mais personne ne peut soupçonner, même lointainement, une pareille perfection. En vain j'ai supplié Nyssia de paraître sans voile dans quelque fête publique, dans quelque sacrifice solennel, ou de se montrer un instant accoudée sur la terrasse royale, donnant à son peuple l'immense bienfait d'un de ses aspects, lui faisant la prodigalité d'un de ses profils, plus généreuse en cela que les déesses qui ne laissent voir leurs adorateurs que de pâles simulacres d'albâtre d'ivoire. Eh bien, elle n'a jamais voulu y consentir. Chose étrange, et que jour où j'irai de t'avouer, cher Gigès. Autrefois, j'ai été jaloux. J'aurais voulu cacher mes amours à tous les yeux. Nulle ombre n'était assez épaisse, nul mystère assez impénétrable. Et maintenant, je ne me reconnais plus. Je n'ai ni les idées de l'amant, ni celles de l'époux. Mon amour s'est fondu dans l'adoration, comme une cire légère dans un brasier ardent. Tous les sentiments mesquins de jalousie ou de possession se sont évanouis. Non, l'œuvre la plus achevée que le ciel ait donnée à la terre, depuis le jour où Prométhée appliqua la flamme sous la mamelle gauche de la statue d'argile, ne peut être tenue ainsi dans l'ombre glaciale du gynécée. Si je mourais, le secret de cette beauté demeurait donc à jamais enseveli sous les sombres draperies du veuvage. Je me trouve coupable en la sachant, cachant, comme si j'avais le soleil chez moi et que je l'empêchasse d'éclairer le monde. Et quand je pense à ces lignes harmonieuses, à ces divins contours que j'ose à peine effleurer d'un baiser timide, je sens mon cœur près d'éclater, je voudrais qu'un œil ami peut partager mon bonheur. Et, comme un juge sévère à qui l'on fait voir un tableau, reconnaître, après un examen attentif, qu'il est irréprochable et que le possesseur n'a pas été trompé par son enthousiasme. Oui, souvent, je me suis senti tenté d'écarter d'une main téméraire ces tissus odieux. Mais Nyssia, dans sa chasteté farouche, ne me le pardonnerait pas. Et cependant, je ne puis porter seul une si grande félicité. Il me faut un confident de mes extases, un écho qui réponde à mes cris d'admiration. Et ce sera toi. » Ayant dit ces mots, Candolle disparut brusquement par un passage secret. Gigès, resté seul, ne put s'empêcher de faire la remarque du concours d'événements qui semblait le mettre toujours sur le chemin de Nyssia. Un hasard lui avait fait connaître sa beauté murée à tous les yeux. Entre tant de princes et de satrapes, elle avait épousé précisément Candolle, le roi qu'il servait, et par un caprice étrange qu'il ne pouvait s'empêcher de trouver presque fatal, ce roi venait faire à lui, Gigès, des confidences sur cette créature mystérieuse que personne n'approchait, et voulait absolument achever l'ouvrage de Morée dans la plaine de Bactre. La main des dieux n'était-elle pas visible en toutes ces circonstances? Ce spectre de beauté dont le voile se soulevait peu à peu comme pour l'enflammer, ne le conduisait-il pas, sans qu'il s'en doutât, vers l'accomplissement de quelque grand destin? Telles étaient les questions que se posait Gigès. Mais ne pouvant percer l'avenir obscur, il résolut d'attendre les événements et sortit de la cour des portraits, où l'ombre commençait à s'entasser dans les angles et à rendre de plus en plus bizarres et menaçantes les effigies des ancêtres de Candaule. Était-ce un simple jeu de lumière ou une illusion produite par cette inquiétude vague que cause aux cœurs les plus fermes l'arrivée de la nuit dans les monuments antiques? Gigès, au moment de dépasser le seuil, crut avoir entendu de sourds gémissements sortir des lèvres de pierre du bas-relief, il lui sembla qu'Héraclès faisait d'énormes efforts pour dégager sa massue de granit.